Thank you. Thank you. Retrouvez Radio Classique de nuit, tous les jours à minuit, sur Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Enguerrand Léger.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de La Grande Table, lancée il y a tout juste 3 mois. Vous organisez des dîners de personnes qui ne se connaissent pas, ou pas forcément, mais qui se présélectionnent en ligne. C'est une sorte de réseau social de la vraie vie. Comment ça fonctionne ?
Exactement. Merci de m'interroger sur La Grande Table. La Grande Table, c'est un constat. On ne connaît pas ses voisins sympas qui, eux aussi, voudraient rencontrer des voisins sympas. Dit autrement, on ne connaît pas les personnes qui vivent autour de nous, qui voudraient faire des nouvelles rencontres ou agrandir leur réseau social.
Il paraît que c'est votre épouse qui vous a soufflé l'idée.
Exactement. Donc avec mon épouse et 2 autres associés, nous avons fondé La Grande Table, qui est une application qui permet de faire 2 choses. Donc la première, c'est que n'importe qui sur l'application peut proposer une proposition de sortie. Donc ça peut être qu'il m'accompagne pour aller au théâtre, j'organise un after work, qui viendrait. Voilà. Et la deuxième chose, ce sont les dîners du jeudi.
Alors, quel est le profil des personnes justement qui s'inscrivent sur La Grande Table pour participer notamment à ces dîners du jeudi ?
Alors aujourd'hui, c'est très parisien, hein, on a 3 mois. Donc ce sont plutôt des femmes qui ont entre 40 et 70 ans, arrivent derrière les hommes sur le même âge. Donc aujourd'hui, on est très implanté à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, et de plus en plus de localités arrivent.
Quelle est la motivation de ceux qui participent avec les réseaux sociaux ? On n'a jamais été autant connectés, et paradoxalement, on n'a jamais été aussi seul. 12% des Français se trouvent dans une situation d'isolement total, 21% des personnes interrogées se sentent seules, et parmi elles, une très grande majorité, 83%, souffrent de cette situation. Ce sont les chiffres de l'étude Solitude 2023 qui a été réalisée sous l'égide de la Fondation de France. Pensez que les réseaux sociaux ont contribué à notre isolement ?
Je pense qu'il y a les réseaux sociaux, mais aussi il y a eu le passage du Covid. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on avait l'habitude de sortir, voire même c'était une pression sociale. On ne se présentait pas au bureau le lundi en disant « j'ai rien fait ce week-end
oui. ».
Et maintenant, on a le droit, c'est même toléré de rien faire.
Ouais.
Et cette perte d'habitude fait que je pense qu'on s'est isolé plus les réseaux sociaux.
Ouais. Et la solitude est un véritable problème dans notre société. Comment on choisit les personnes avec qui on va aller dîner ? Quels sont les critères ?
En fait, on ne les choisit pas. Nous, on organise des tables de 6. Donc on va prendre Paris, on va faire Paris rive gauche et Paris rive droite. On ouvre une table de 6. Et quand la table est complète, on va ouvrir une autre table de 6.
Il n'y a aucun critère de sélection des convives qui vont participer à ce dîner.
Il faut être juste membre de La Grande Table.
Ouais. Uniquement des tables de 6, vous dites que ça permet d'avoir une seule discussion à la fois.
Exactement. Et je crois que tout le monde est d'accord. Hein. Dès qu'on passe sur une table de 8, on est à 2 discussions. Et ça ne marche pas beaucoup. Il suffit qu'on soit un petit peu timide et la soirée, elle peut virer au cauchemar.
Ouais. Est-ce qu'il y a des règles, des recommandations pour vos membres ? On dit généralement qu'il ne faut pas parler d'argent, de religion, de sexe. Je les ai cités par ordre alphabétique, hein, pas par ordre d'importance.
Ouais, c'est très important. Oui, moi j'ai assisté aux 2 premiers dîners et en fait ça se fait très bien parce que tout le monde sait très bien se tenir et tout le monde fait attention. Alors il y a toujours des sujets français où la voix monte, où tout le monde a envie de dire ce qu'il pense, mais on est comme ça, c'est notre côté gaulois.
Ouais, on parle de politique du coup.
On parle toujours de politique.
Vous êtes une jeune, très jeune structure, je l'ai dit, avec peu de recul pour l'instant. Est-ce que vous connaissez le pourcentage de personnes qui se revoient par la suite ?
Alors, je connais le nombre de personnes qui s'inscrivent régulièrement, donc c'est à peu près 2 personnes, c'est la moitié. Voilà. Et par contre, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui est proposé, en général, les personnes se revoient derrière. Voilà. Et ça, je dirais que c'est un chiffre absolument extraordinaire que j'ai découvert.
Voilà, parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de se créer un véritable réseau social physique des personnes qu'on rencontre, qu'on apprécie et qu'on revoit régulièrement. 2700 membres en seulement 3 mois. Quel est votre business model ?
Alors, aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais on ambitionne de mettre un business model dans 6 mois, 1 an, qu'on sera mieux, on saura un petit peu plus où on va. Donc l'idée, ça serait comme un droit d'adhésion, comme on rentrer dans une association, donc ça pourrait être...
Mais est-ce qu'on peut envisager, par exemple, que les restaurants vous versent une commission si vous organisez régulièrement des dîners chez eux ?
J'ai posé la question aux restaurants, et ça ne les intéresse pas, dans le sens où eux, ils ont déjà beaucoup de travail, ils ont beaucoup de choses à faire, et ils savent que quoi qu'il se passe, leur table sera remplie. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le marché qui essayent déjà de leur prendre beaucoup de choses.
Ouais.
Donc,
Mais au final, vous êtes un apporteur d'affaires au même titre que The Fork ?
Effectivement, même petite que The Fork, mais je crois être encore peut-être trop petit et peut-être que j'aurai aujourd'hui la force de The Fork.
Ça changera peut-être dans quelques années. Comment fonctionnent les dîners ? Chacun paye sa part ? Est-ce qu'il y a une règle ? Est-ce qu'on partage l'addition ? Est-ce que chacun paye ses propres consommations ?
Oui, alors il y a deux règles. Moi, ce que je demande, c'est de venir quand même un peu apprêté. Parce qu'il faut que ça soit un moment sympa, il faut qu'on l'ait dans son calendrier. Donc nous, nos dîners, c'est tous les premiers jeudis de chaque mois.
Ouais.
Voilà. Et la deuxième, c'est chacun paye sa part, tout simplement.
Ouais. Et quand vous dites apprêter, on n'arrive pas en claquettes chaussettes.
Bah, apprêter, non.
Merci beaucoup pour cette excellente idée. Enguerrand Léger, fondateur de la Grande Table. Donc on peut s'inscrire en ligne, les dîners du jeudi, et on l'a compris, d'autres activités que les personnes inscrites peuvent proposer. L'objectif, c'est de rencontrer ses voisins, plutôt dans son quartier.
Exactement.
C'est ça l'idée. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Et Luc Ferry, donc, qui est avec nous, comme tous les matins, pour l'esprit des mots. Bonjour, Luc Ferry.
Bonjour Stéphane, j'espère que vous nettoyez votre salle de bain parce que Augias, il va avoir des ennuis à pas nettoyer ses écuries. Alors Augias, ça commence bien pourtant, c'est un des Argonautes, il est parti avec Jason pour conquérir la Toison d'Or. Il est le roi de l'élite, c'est une région du Péloponnèse. Le nom Péloponnèse vient du fils de Tantale, de Pélops, mais je laisse ça de côté. Et donc il tourne mal, il devient très sale et puis il nettoie rien, il nettoie pas ses affaires. Et donc il a des écuries qui n'ont pas été nettoyées depuis 30 ans, donc elles sont d'une saleté cosmique, si je puis dire. Et en effet, anticosmique plutôt, parce que ça détruit tout le paysage, ça détruit tous les alentours. Et Héra, qui veut faire tuer Héraclès, parce que c'est un enfant adultérin de son mari, Zeus, elle fait demander à Héraclès plutôt d'aller nettoyer les écuries d'Augias. Et ça, c'est un des travaux d'Héraclès, où Héraclès ne risque pas la mort, il s'agit seulement de l'humilier, il ne s'agit pas de le faire tuer, il s'agit de l'humilier. Et donc Héraclès ne se laisse pas faire, et quand il arrive chez Augias, il dit à Augias, je ne suis pas un esclave, donc je vais te payer pour le travail que je vais faire pour nettoyer tes saletés. Et donc, Augias est bien obligé d'accepter, il lui propose un salaire, et Héraclès, qui est rusé comme tout, est fort comme un bœuf, même plus qu'un bœuf, il crée une brèche immense dans le mur des écuries en amont, et puis en aval une autre brèche pour que ça puisse s'écouler. Il va dériver un fleuve qui passe à côté, et c'est le fleuve qui se charge de nettoyer les écuries d'Augias, qui va traverser les écuries d'Augias, de telle sorte que, évidemment, Héraclès ne se salit pas les mains. Je passe de côté les détails, mais Augias ne veut pas payer Héraclès. Donc Héraclès proteste, il se retrouve, figurez-vous, en justice, il y a un procès. Et Augias ment et dit, mais non, j'ai jamais rien promis. Et malheureusement pour Augias, son fils Phileus va le démentir. Il est convoqué comme témoin et dit, mais non, c'est vrai, mon père a promis à Héraclès un salaire, et donc je ne peux pas dire le contraire devant un procès, devant un jury. Et donc, Augias est obligé de payer la mort dans l'âme, mais Héraclès ne lui pardonnera jamais, et quand il aura fini le travail, quand il retourne voir Héra, enfin Eurysthée, son cousin, pour lui dire qu'il a fait le travail, c'est Eurysthée qui donne toujours les ordres à Héraclès, mais il les donne il est l'intermédiaire de Héra, eh bien, il retourne sur place et il va tuer Augias pour que justice soit faite. Il faut jamais oublier qu'Héraclès, c'est aussi un maître de justice, c'est aussi Dicée qui est en jeu, la justice.
Merci beaucoup, Luc Ferry. On se retrouve demain.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 7h10, c'est l'heure de l'édito de l'économie avec le journal Les Échos et François Vidal. Bonjour François.
Bonjour Marc.
20 milliards d'euros d'économies, c'est ce que la Cour des comptes propose de réaliser sur les dépenses de l'assurance maladie. Un rapport qui tombe à pic, François.
Oui, on ne pouvait pas rêver meilleur timing. Dimanche, le gouvernement prévenait qu'il faudrait réaliser 40 milliards d'économies l'an prochain pour tenir les objectifs budgétaires. Et ce matin, François Bayrou organise un grand out pour enfoncer le clou. Du coup, les propositions de la Cour des comptes permettent de comprendre quelle réalité se cache derrière ces chiffres un peu abstraits. Et ce qui est rassurant pour tous ceux qui craignent que sérieux budgétaire ne rime avec remise en cause de notre modèle social, c'est qu'il n'en est rien. Alors, réduire les dépenses de santé de 10% environ comme le propose la Cour, ce qui au passage suffirait à peine à combler un déficit de la Sécu estimé à 15 milliards l'an dernier, obligera à faire des choix, voire quelques sacrifices, mais rien de choquant ou d'insupportable.
Parmi les 15 propositions, François, on trouve tout de même la fermeture de certains établissements hospitaliers et le déremboursement de certains actes médicaux.
Oui, des mesures impopulaires qui provoqueront inévitablement une levée de boucliers, mais quand on y réfléchit, est-ce vraiment choquant de revoir notre carte hospitalière si cela permet de mieux soigner les patients. De la même manière, harmoniser les soins prodigués d'un département à l'autre sur le territoire, comme le propose le rapport, relève du bon sens et permettrait accessoirement de dégager près de 3 milliards d'euros d'économies. Ce rapport est une mine d'or pour qui veut mettre un terme à la dérive des dépenses de santé. La question est de savoir si la volonté politique de le faire existe, et pas seulement pour la Sécu, alors que le crédit financier de la France s'épuise. Le gouvernement Bayrou prétend qu'il y est prêt, sans augmenter les impôts. Le temps est venu qu'ils joignent le geste à la parole.
L'édito écho de François Vidal du journal Les Échos. Bonne journée François.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
7h13, les voix de l'économiste Stéphane Pedrazzi. Votre invité ce matin est économiste, ancien président de l'autorité de la concurrence.
Bonjour Emmanuel Combe.
Bonjour Stéphane.
Également professeur à la Schema Business School. Bienvenue sur Radio Classique. Donald Trump continue de souffler le chaud et le froid, des annonces fracassantes, puis un moratoire de 90 jours, puis à nouveau des déclarations offensives. Il a encore dit qu'aucun pays ne serait épargné. Pourquoi s'attaquer à tout le monde si l'objectif, qui semble maintenant évident, c'est de s'attaquer à la Chine ?
En réalité, il a quand même une obsession constante depuis son premier mandat. C'est en effet, vous l'avez dit Stéphane, la Chine. Le problème, c'est quand il a fait du protectionnisme lors de son premier mandat, ce protectionnisme a été contourné, la Chine passant notamment par des pays tiers, le Vietnam, le Mexique, etc. Donc l'idée étant de mettre des droits de douane sur tous les pays, vous éviterez le contournement indirect. Alors vous me direz Stéphane, mais les Chinois ne sont pas allés en Europe pour exporter vers la Chine. Il y a une seconde obsession qui est le déficit commercial. Et dès lors que vous avez un déficit, ils considèrent que c'est déloyal, et donc dès lors que c'est déloyal, ils mettent des droits de douane. On va y revenir peut-être, ça me semble une lecture un peu simpliste de la réalité. Mais il a quand même une obsession constante. La Chine sur le plan économique et sur le plan technologique.
Un moratoire de 90 jours a été annoncé la semaine dernière. Vous signez une tribune ce matin dans les colonnes de l'Opinion. 90 jours pour dissuader Donald Trump. De quelle manière ?
Alors, pour le dissuader, vous savez, pour négocier, il faut avoir des armes de négociation. On peut tout d'abord mettre en place des droits de douane sur les marchandises. Mais en mettant des droits de douane, pour un économiste, n'oubliez jamais que la première victime d'un droit de douane, c'est celui qui les met en place. La première victime du protectionnisme de Donald Trump, ce sont les États-Unis. Donc si nous faisons la même chose, nous allons nous punir nous-mêmes. Nous avons par contre une autre possibilité. Donald Trump oublie de nous dire qu'il a un excédent commercial avec l'Europe dans les services. Services numériques, services financiers. Qui plus est, pour le consommateur, un grand nombre de services sont, entre guillemets, gratuits. Je pense en particulier aux services numériques. Eh bien, il y a une arme que l'Europe pourrait mobiliser, non pas pour l'utiliser, mais comme menace, c'est le fameux instrument anti-coercition.
Qui n'a jamais été utilisé.
Ce qui est normal, puisqu'il date de 2023. Mais ce que vous dit cet instrument, c'est que si vous utilisez le commerce pour régler d'autres problèmes, or Trump le dit lui-même, il dit « j'ai un problème avec l'Europe », c'est que vous voulez réguler les géants du numérique avec le DSA et le DMA, et le Digital Market Act. Baissez la garde sur cette régulation, et alors je serai plus clément sur le commerce. Ça s'appelle clairement de la coercition. Eh bien, que vous dit cet instrument anti-coercition ? L'Europe peut prendre toutes les mesures. J'ai bien dit toutes les mesures, y compris faire du sur-mesure. On pourrait imaginer dans la négociation l'Europe dire à Donald Trump, si dans 90 jours, vous maintenez les droits de douane sur les marchandises, alors nous sortirons l'arme anti-coercition et nous avons tout loisir de sélectionner les entreprises du numérique, par exemple pour les taxer. Il me semble que d'ailleurs la France est sur cette position, l'Europe également est en train d'évoluer. Je pense qu'on a une arme, on a des arguments pour en tout cas discuter d'égal à égal avec Donald Trump. Si on ne fait rien, à mon sens, on risque d'avoir de grosses déconvenues dans 90 jours. Les mêmes causes ayant les mêmes effets, le déficit commercial Europe-États-Unis persistant, Trump remettra les droits de douane.
Au-delà des droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis, vous alertez contre un risque, le report des flux commerciaux, c'est-à-dire la déferlante de produits chinois en Europe, puisqu'il va forcément falloir écouler cette surproduction.
Alors Stéphane, c'est même pas un risque, c'est une quasi-certitude. Toute la question est de savoir quelle sera l'ampleur de ce, entre guillemets, déversement vers l'Europe. Ce qui veut dire, et c'est peut-être d'ailleurs la stratégie de Trump, de se dire que l'Europe va se retourner contre la Chine et du coup va s'allier à Donald Trump. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Dans une autre tribune, je parle de croisade. Trump a une véritable croisade contre la Chine. L'Europe n'a pas une croisade contre la Chine, elle a un problème avec la Chine. Il ne faut pas oublier que l'Europe est très déficitaire avec la Chine. On a un déficit commercial à peu près de 270 milliards qui a quasiment triplé en 5 ans. Eh bien, il faut aussi discuter avec la Chine. La Chine, me semble-t-il, est sur une position un peu différente de Trump. Elle dit, prenons-la au mot, elle dit vouloir respecter les règles de l'OMC. Alors vous le savez, dans les règles de l'OMC, si vous subventionnez votre production, et la Chine subventionne sa production, si vous pratiquez le dumping, et parfois il semblerait que la Chine fasse du dumping, alors l'Europe serait fondée à se protéger. Donc je pense qu'on a des arguments au moins pour discuter. Puis vous savez Stéphane, ne pas discuter, c'est ce qu'on a comme autre alternative. Comme autre alternative, on a de toute façon la certitude que l'on va être inondé d'acier chinois et de produits chinois. Engageons la discussion et secondement, diversifions nos exportations.
Comment est-ce que la France peut négocier avec la Chine?
Alors déjà,
sous quelles conditions?
C'est pas la France qui va négocier, c'est une prérogative exclusive de l'Union européenne. Eh bien, je prends un exemple très concret, les véhicules électriques. On est dans un conflit assez dur, l'Europe voulant se protéger des subventions chinoises, les Chinois y ont rétorqué, notamment par le cognac. On pourrait tout à fait imaginer de dire à la Chine, on vous ouvre une certaine partie du marché européen en échange de transfert de technologie sous la forme
c'est
de...
C'est ce que la Chine nous a demandé pendant des années.
Mais exactement. Stéphane, comment la Chine est rentrée dans le secteur automobile en imposant aux Européens, et notamment à Volkswagen, des joint ventures sur le marché chinois? C'est important pour nos auditeurs, il faut sortir peut-être, on entend parfois cette idée que la Chine est un pays qui n'est pas en avance technologiquement. La Chine est en avance technologiquement, notamment dans les voitures électriques. Donc à nouveau, la solution c'est quoi? Si on ne fait rien, de toute façon, les Chinois vont ouvrir des usines tournevis. Entre une usine tournevis et une joint venture avec des transferts de technologie, je préfère encore la joint venture avec des transferts de technologie.
Vous êtes un fervent défenseur des règles de l'OMC. Est-ce que la Chine respecte réellement les règles de l'Organisation mondiale du commerce?
En tout cas, elle dit vouloir rester dans un système multilatéral. Prenons-la au mot. Alors, je vous rappelle, c'est très important, l'OMC autorise le protectionnisme. Dès lors que vous démontrez que votre partenaire subventionne sa production, dès lors que vous démontrez que votre partenaire se livre à du dumping. Puisque la Chine dit vouloir rester dans le cadre multilatéral, prenons-la au mot. En tout cas, il y a une certitude, c'est que Donald Trump a dit clairement qu'il ne voulait plus du système multilatéral.
C'est-à-dire que Donald Trump ne veut plus s'arrêter au feu rouge.
En clair, c'est exactement ça. Pour nos auditeurs, au fond, la Chine vous dit, on est tous d'accord sur le fait que quand le feu est rouge, on s'arrête. Par contre, on va discuter, je me suis arrêté au feu rouge, ce que conteste l'Europe. Donald Trump vous dit, de toute façon, feu rouge ou pas, je passerai. C'est pas tout à fait la même chose.
La guerre commerciale avec les États-Unis, les conséquences sur la Chine, est-ce que ça peut pousser l'Europe vers d'autres accords? Et je pense notamment avec les pays du Mercosur.
Alors vous connaissez ma position constante.
Là encore, vous êtes un fervent défenseur de cet accord.
Je suis un peu seul en France. Depuis le début, je pense qu'il faut absolument signer avec le Mercosur. Quand on regarde le gain, il y a eu des évaluations qui ont été faites sérieuses. Le gain global est positif pour l'Europe et notamment, on oublie de le dire, pour certains agriculteurs. C'est un peu facile de dire c'est l'industrie contre l'agriculture. Lorsque vous êtes un producteur de fromage, lorsque vous êtes un producteur de vin, de spiritueux, et on ne parle pas de choses sans importance. Je vous rappelle que le troisième solde commercial de la France, après l'aéronautique, les cosmétiques, le luxe, c'est les vins et spiritueux. Eh bien, vous êtes plutôt content d'avoir accès au marché du Mercosur. Certes, il y aura des victimes, notamment...
Il faut les sacrifier?
Non, il faut les dédommager. Vous aurez les producteurs de bœuf, les producteurs de sucre. On peut mettre en place un fonds de compensation, un fonds d'ajustement à la mondialisation. Mais quand on regarde le gain global, il est très nettement positif. Il y a le Mercosur, il y a d'autres accords qui pourraient être discutés. Vous l'avez vu, l'Europe commence à aller vers l'Inde, à discuter avec l'Inde. Il y a également l'Indonésie.
Est-ce qu'il faut renforcer le CETA également avec le Canada?
Alors le CETA est déjà entré en vigueur. Ouais. Et quand on regarde le bilan, souvenez-vous les craintes sur le CETA. On parlait du bœuf aux hormones. Le bœuf aux hormones, c'est simple, il est interdit. Donc je pense qu'il faut continuer à négocier, à diversifier nos approvisionnements pour être moins dépendants des États-Unis.
Merci beaucoup Emmanuel Combes d'être venu ce matin sur Radio Classique, économiste, ancien directeur de l'autorité de la concurrence et professeur à la Schema Business School.
La matinale de Radio Classique
avec Marc Bourreau.
7h40, l'écho du monde avec Nicolas Tenzer. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marc.
Ukraine, Iran, Gaza, la politique étrangère de Donald Trump donne peu de résultats tangibles pour l'instant. Mais il est un domaine où les convictions de Trump semblent bien affirmées et porteuses d'effets à moyen long terme, Nicolas, c'est celui de l'aide au développement.
En effet, la suspension prélude à l'annulation des crédits d'aide au développement auront des conséquences structurelles et inquiétantes. Selon les statistiques de l'OCDE, l'aide publique au développement américaine était de 64,7 milliards de dollars en 2023, soit 29% de l'aide mondiale. Cette aide, notamment pour les situations d'urgence, famine, désastres naturels, guerre, est vitale. S'y ajoute l'aide pour l'agriculture, la lutte contre le sida, la santé maternelle et infantile, l'assainissement de l'eau, l'éducation, etc. Dans certains pays, elle représente 50% de l'aide totale et globalement, en Afrique, 35%. L'America First de Trump devient en fait une America alone. On se rappelle aussi que Washington s'est retiré de l'Organisation mondiale de la santé et on attend son départ d'autres organisations ou des coupes drastiques des crédits qui leur sont alloués. Cet abandon intervient à un moment où plusieurs pays, notamment pays pauvres d'Afrique, devront faire face à des droits de douane de plus de 50% alors qu'un accord commercial de 2000, l'AGOA, qui permettait à plusieurs pays africains d'exporter vers les États-Unis sans droits de douane, ne devrait pas être renouvelé.
Une telle politique aurait aussi des effets politiques.
Oui, car elle favorisera la Chine sur plusieurs plans. D'abord, celle-ci a augmenté son empreinte, autant en Afrique, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient. Elle aura carte blanche pour accroître encore sa politique d'investissement et d'aide. Intéressée tous azimuts. L'aide chinoise est loin de respecter les bonnes pratiques mises en avant par les organisations internationales en termes de lutte contre la corruption, de développement durable et d'inclusion des populations. Ensuite, l'aide au développement a été pour les États-Unis, comme pour l'Europe, un outil de soft power, c'est-à-dire d'influence culturelle, intellectuelle et politique. Pétain aurait encore plus les mains libres pour influencer certains pays lors des négociations internationales ou des votes à l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle imprimerait également davantage encore sa marque dans les organisations internationales où son influence est déjà forte, notamment l'OMS et la FAO, poussant ses propres intérêts politiques et normatifs. Cette décision américaine est à mettre en parallèle avec la coupure des financements aux think tanks, ONG et universités à l'étranger, aidant les dissidents et médias dans des régimes oppressifs à défendre la liberté et les droits de l'homme, ce qui n'est pas la préoccupation de Trump, au contraire.
Les autres pays démocratiques peuvent-ils réagir ?
Oui, mais cela va les obliger à eux-mêmes renforcer leur aide, alors que la tendance des dernières années était plutôt à la baisse. Globalement, l'Union européenne en tant que telle, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et la France, totalisaient 117 milliards d'aides au développement, soit près du double des États-Unis. Mais ils devront pallier le retrait américain s'ils ne souhaitent pas que la Chine, les Émirats arabes unis, la Turquie et d'autres prennent cette place laissée vacante. C'est un enjeu de solidarité, mais aussi leur intérêt bien compris. N'oublions pas que l'Afrique, en 2100, représentera 3,8 milliards d'habitants, soit plus d'un quart de la population mondiale. On imagine les conséquences pour l'Europe d'une non-maîtrise de son développement, y compris en termes de migration non contrôlée et de terrorisme, qui alimentent déjà les fantasmes, sans parler des matériaux critiques dont l'Europe ne saurait souhaiter qu'ils soient préemptés par d'autres. Une non-solidarité a aussi un coût politique, comme on le voit avec le peu de convergence de certains pays du Sud avec les démocraties lors de la guerre en Ukraine. L'Europe puissance a une dimension militaire, économique et technologique, mais aussi de développement. Prenons-en conscience aujourd'hui.
L'écho du monde avec Nicolas Tenzer, comme chaque matin cette semaine. À demain, Nicolas, bonne journée.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin.
Guten Morgen Markus.
Guten Morgen. L'apprentissage de l'allemand à l'école ne cesse de reculer. Vous revenez ce matin sur le parcours de cette minorité d'irréductibles qui résiste à l'espagnol, les germanistes.
Et oui, dans l'article cité par Hervé Gattegno dans sa revue de presse, une enseignante parlait de trois associations négatives avec l'allemand chez les élèves et leurs parents. Ça ne sert à rien, c'est moche et enfin, inévitablement, Hitler, un argument du niveau d'OSS 117.
Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association.
Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur.
Oui, Je connais cette théorie, oui.
L'allemand serait une langue martiale qui rendrait même une recette de soufflé malveillante.
Ein Liter Milch, drei Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller.
Louis de Funès qui a un peu desservi la langue allemande aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Il faut voir les images sur lesquelles les ombres font une moustache et une mèche qui rappellent des mauvais souvenirs. Sur les réseaux sociaux, eh bien, le procédé est le même aujourd'hui. On insiste sur les sonorités gutturales de la langue. Exemple de comparaison entre le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemand. Presque 1 million de vues.
Papillon.
Butterfly.
Farfalla.
Mariposa.
Schmetterling.
Ambulance.
Ambulance.
Ambulanza.
Ambulancia.
Krankenwagen.
Wir reiten zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit Feind.
On pourrait y ajouter un dernier cliché, l'allemand serait une langue difficile. Il faut donc dépasser ces idées reçues que n'ont pas les autres langues pour choisir celle de Goethe. Et les germanistes se retrouvent donc souvent en petit comité.
Guten Morgen, und wie geht es dir?
Au moins, tout le monde participe. Ceci n'est pas un cours particulier. Ces 5 élèves sont les seuls du collège à avoir choisi l'allemand comme première langue en 6e.
Direction lernen.
Et à l'heure où l'anglais domine, eh bien le reste de la classe a fait un autre choix ensuite.
Voici le reste de la classe, 22 élèves qui ont choisi l'anglais en première langue, sûrs d'avoir fait le bon choix.
L'anglais, je trouve ça plus beau que l'allemand. Et ouais, parce que c'est une langue assez parlée dans le monde. Et l'anglais, je trouve que c'est plus facile.
Dans cette classe, seulement 4 élèves devraient s'inscrire en allemand en 4e. Tous les autres penchent plutôt pour l'espagnol.
Eh oui, l'espagnol. Hein,
4 élèves rival, seulement en allemand.
4 élèves sur 22.
Ouais.
Grand rival de l'allemand, hein, l'espagnol au moment du choix de la LV2. Mmh. Ça oblige les professeurs à la surenchère, comme la promesse de voyage. Et dès l'après-guerre, les échanges se sont développés pour sceller la réconciliation.
La ville de Vesoul a reçu, pour une période d'un mois, de jeunes lycéens de Francfort-sur-le-Main, désireux de connaître notre beau pays. Guten Tag, Karl, wie geht's? Bonjour, William, et bon séjour à Vesoul. Et après ces civilités, les écoliers et lycéens de Vesoul prirent un car frété spécialement en direction de Francfort am Main. Oui, les États-Unis d'Europe sont en bonne voie.
Il y a parfois des coups de pouce inattendus. Les professeurs d'allemand se souviennent avec émotion du milieu des années 2000.
Un phénomène maintenant qui enflamme les adolescents au point que certains décident même de prendre des cours d'allemand. Il s'agit d'un groupe de rock venu d'Outre-Rhin, Tokyo Hotel.
Mais oui, évidemment. Tokyo Hotel, vous avez connu Marc ?
Oui, lointain.
Quatre
lointain.
Jeunes garçons aux cheveux longs qui chantent le malaise adolescent en allemand.
Ils ont entre 18 et 20 ans. Originaire de Magdebourg en ex-Allemagne de l'Est.
Guten Morgen.
Un phénomène. Ils ont fait aimer l'allemand à plein de petits Français. Le jour de la rentrée, le professeur pose une question.
Pourquoi as-tu choisi l'allemand? Et souvent, ils écrivent « parce que je connais Tokyo Hotel ».
On va essayer de voir les paroles pour comprendre un peu les textes.
L'allemand pour comprendre Tokyo Hotel, Nena ou les leaders de Schubert, oui. Chacun choisira. Mais aussi pour se démarquer sur le marché du travail. Quand l'allemand est la langue la plus parlée d'Europe avec 100 millions de locuteurs natifs, il vaut mieux soigner son accent, n'est-ce pas François Hollande ?
Dear camarades, ich bin sûr, wir gewinnen zusammen.
Wunderbar.
Wunderbar, François Hollande qui se dit donc sûr de gagner avec ses alliés du SPD. Il avait choisi un premier ministre germanophone, Jean-Marc Ayrault.
Ja, das, ich glaube, die, wir haben kein Modell zu suchen. Wir haben in uns die besten Werte, die besten Ideen, die wir entwickeln müssen.
pas de modèle à suivre.
Ah oui, Jean-Marc, c'est un autre modèle. Oui, oui, oui.
Les idées sont à l'intérieur. Bon, Jean-Marc Ayrault, il faut dire que c'était un ancien professeur d'allemand. Citez-moi un exemple de professeur d'espagnol à ce niveau de l'État. Manuel Valls, ça ne compte pas. Outre-Rhin, l'apprentissage du français a rebondi ces dernières années, mais il est globalement confronté au même problème, remplacer un groupe pour ados par un autre.
Et la musique, moi j'entends toujours Section d'Assaut, et c'est génial.
Et pourtant cela ne suffit pas, c'est la prof de français qui le confirme.
Non, le français n'est pas une langue à la mode, malheureusement pas. Les jeunes pensent que l'espagnol est beaucoup plus présent dans la musique populaire.
Alors s'il faut un dernier argument, souvenez-vous que des études d'allemand peuvent aussi vous mener à une carrière de chanteuse internationale dans la musique populaire. Justement, ce fut le cas de Françoise Hardy.
Oui,
bon, il n'y a peut-être aucun lien entre les deux, mais on ne résiste pas. Danke schön und bis morgen, Markus.
Augustin Lefebvre, sans aucun complexe, avec son journal imprévisible. Augustin, que l'on retrouve à 8h30 pour la revue de presse.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et le décryptage écho avec David Barou à 7h54. Bonjour David.
Bonjour Marc.
Les grèves à la SNCF sont bien parties pour gâcher les ponts du mois de mai.
Alors pour l'instant, rien n'est sûr, mais ce qui est quand même déjà certain, c'est que la pression monte et que les syndicats de la SNCF sont en train, si j'ose, de faire tout ce qu'ils peuvent pour être sûr de nous faire préférer la voiture. Les beaux jours sont là et effectivement la CGT, Sudrail et les collectifs de contrôleurs se sont donné le mot pour compliquer les allers-retours du deuxième week-end de mai, puisque la CGT appelle à la grève à partir du lundi 5 mai, Sud du vendredi 9 au dimanche 11, et les contrôleurs se sont intelligemment calés entre les deux le 7. Les négociations avec la direction peuvent encore aboutir, mais dans le doute, pas mal de Français vont sans doute commencer à envisager d'autres options en matière de transport.
Pourquoi les syndicats se mettent en grève, David?
Déjà parce qu'ils le peuvent, ils ont un vrai pouvoir de nuisance. Quand Radio France se met en grève, les auditeurs basculent sans problème tous sur Radio Classique, et la grève est contre-productive. Dans le ferroviaire, c'est comme les contrôleurs aériens, c'est très pénalisant pour les usagers. Il y a peut-être aussi un côté politique. Le gouvernement n'arrête pas de prendre son temps pour choisir un successeur au PDG actuel, Jean-Pierre Farandou, qui doit partir. C'est une manière pour les syndicats de montrer leurs muscles. Mais officiellement, ils se mettent en grève pour défendre leurs conditions de travail, côté Zola, mais surtout leur pouvoir d'achat. Ils veulent des sous.
Et est-ce que